Aujourd'hui, c'est 10% des stocks de poissons qui ont disparu autour du littoral français. Pour comprendre cette baisse considérable, il faut prendre en considération le système d'exploitation, qui est la surpêche, mais également les effets du changement climatique sur les stocks de poissons. Une étude publiée par des chercheurs du CNRS a mis en lumière les influences de ces deux facteurs sur l'évolution du nombre de poissons en mer du Nord et en Manche. Ils recommandent un ajustement des quotas de pêche en fonction des évolutions du climat. Derrière cette diminution des stocks se cache une crise sociale qui touche tous les artisans du secteur de la pêche, face à des industriels qui surexploitent les ressources halieutiques et qui tiennent les rouages de tout un système de quotas, les pêcheurs artisans se retrouvent démunis.
Dans cette première partie, vous entendrez Sylvie, Sandrine et Merlin, des boulonnais qui travaillent dans le poisson, directement impactés par sa raréfaction. Ils témoignent des transformations des populations de poissons dues au réchauffement des températures, ainsi que de la présence d'énormes navires ratissant tous sur leur passage, quasiment tous néerlandais. Dans le second épisode, on se penchera sur le fonctionnement en interne de la répartition des quotas de pêche et nous comprendrons l'omniprésence des industriels qui noyautent tout un système à leur avantage. Puis nous laisserons la parole à une équipe de scientifiques qui alerte sur l'influence grandissante du réchauffement climatique sur la situation des stocks, mettant en lumière la nécessité d'un réajustement des quotas en fonction de ces évolutions. Je suis Mao.
Et moi, Angelina. Et vous écoutez On perd le Nord, le premier épisode de notre série sur la diminution des stocks de poissons en Manche et ses répercussions.
Comme on n'y connaissait rien et qu'on avait du mal à comprendre les enjeux mis en lumière dans cette étude, on a voulu aller sur place. Un samedi matin, on s'est donc décidé à aller au marché aux poissons de Boulogne-sur-Mer et parler aux principaux intéressés. On est arrivé vers 11h30, il faisait grand soleil mais le froid était mordant. Les pêcheurs avaient déjà plié bagages, rentrés tôt de leur matinée en mer. On a rencontré Sandrine et Sylvie, deux poissonnières boulonnaises installées sur le port depuis des années.
J'ai du mal à en trouver du poisson maintenant.
Ah oui, ouais, beaucoup moins, hein. Il y a non, beaucoup moins de poissons.
Je peux
Ah oui, il n'y a pas de souci. Non, c'est parce qu'il y a chauffage.
Oui, c'est pas mal là.
Ah, non, mais j'y fais froid. C'est déjà un moment déjà qu'on a peu de moins en moins de poissons. Hein. On n'arrive plus à avoir de cabillaud. Moi, nos cabillauds, c'est enfilé, je veux dire.
Là,
ça reprend un petit peu, mais c'est des petites morviettes. C'est plus des grands cabillauds comme avant. Avant, il y avait pas mal de sol et tout ça. Maintenant, il n'y en a pas.
Au début, on l'a questionné sur la raréfaction du cabillaud et on a abordé les conséquences que ça avait sur son activité.
Ah bah ouais, quand même, parce que les gens en demandent et on n'en a pas.
Ouais.
On voulait qu'on dise aux gens, on ne peut pas le pêcher si on va à la mer, il n'y en a pas.
On
ne peut pas l'inventer, quoi, je veux dire. C'est pas évident, quoi.
Parce qu'il augmente le prix du poisson
à l'achat. Ouais.
Vous avez un exemple ou pas
de... Bah non, comme les autres gabions, on les a vus à 19,90. Ah, ça nous fait vendre 29,90, ça n'a pas le coup. 30 euros de marge, c'est double normalement, on est
c'est
d'accord.
Combien avant
Avant, on les avait à 12-13 euros le kilo. C'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça, c'est impossible. On ne peut pas travailler pour 2 euros de marge. Moi, je ne vais pas travailler pour ça, je suis quand même 10 heures de boulot par jour, quoi.
On allait voir Sandrine qui nous a dit qu'elle mettait sur son étalage de nouvelles espèces de poissons.
Tous les poissons des mers chaudes remontent.
Vous en avez vu chez vous, enfin, vous avez
vu. Là cet été, il y a eu un thon, il y a eu 3-4 thons qui ont été pêchés. 360 kilos. Il y en a eu un deuxième de 250 kilos. Et c'est un ami à moi qui l'a acheté. Et il l'a découpé devant tout le monde. C'était magnifique.
Normalement, on trouve le thon dans les eaux plus chaudes, en Méditerranée, dans le Pacifique ou dans l'océan Indien. Au-delà du réchauffement climatique, elle a tenu à nous préciser le rôle des navires-usines dans la disparition du cabillaud en Manche.
Il y a 20 ans, il y en avait en quantité. Il y a eu une exploitation énorme. Ils ont été vraiment d'arrache-pied, ils ont tout raclé. Alors ils mettent des filets de 4, 5, 6 kilomètres. Alors tout ce qui passe sur le passage s'est ramassé. Gros poissons, petits poissons, manque des espèces. Hein. Je vous parle, ce qu'il y a, il y a de la, entre le cabillaud, il y a le turbo, il y a la barbu, il y a le carlé, tout ça, il n'y a plus. Parce qu'il y a aussi les Hollandais, la pêche électrique. Puisque tout le temps qu'ils ne pêchent pas trop dans leur zone, ils pêchent dans la nôtre. Alors ça, ah ben oui.
Merci beaucoup.
De rien.
Vraiment,
je vous ai pas trop embêté.
Pas du tout, c'était hyper intéressant.
Bon, ben voilà.
On s'est rendu compte de l'impact qu'avait la pêche intensive sur la biodiversité et surtout sur la vie des artisans pêcheurs, des poissonnières et globalement de tous ceux qui vivent de la pêche artisanale. Pour cause, un navire usine peut pêcher 200 tonnes de poissons par jour quand les bateaux d'artisans pêcheurs, eux, ramènent 100 kilos de poissons grand maximum.
Avant, on rentrait avec 200 kilos. Des fois, on a terminé là, en 2022, on a encore essayé, on est rentré, on avait 6 kilos, 3 kilos. Voire des paquets pour un bateau de pêche professionnel. On sortait, on perdait de l'argent.
De retour à Lille, nous avons donc essayé de contacter des pêcheurs. Ce n'a pas été chose facile, car beaucoup de pêcheurs que nous avons contactés avaient déjà arrêté leur activité. On est finalement tombé sur celui que vous entendez, Merlin Laurent.
En 10 ans de temps, on a perdu pratiquement 60-70% de la flottille dans la petite pêche.
La flottille, c'est le nombre de bateaux à Boulogne qui va pêcher.
Attention, il n'y a plus personne qui veut faire le métier. Nous, on a beaucoup de mal à trouver des employés, quoi, des marins, on n'a plus, quoi. Il y a pas mal de bateaux des fois qui restent à quai parce qu'ils n'ont pas de matelots pour partir en mer, ils ont du mal à trouver des équipages, tout ça.
Pêcheur de père en fils, il a remonté ses premiers poissons à l'âge de 16 ans. Après 30 ans d'activité, il nous explique qu'aujourd'hui, il n'y a plus de poissons à pêcher. Il a dû s'adapter et s'est reconverti dans la pêche au casier, remontant aux mares, crabes et bulots.
Du coup, nous, par le cabillaud, on pense que c'est le climat. Je pense que les eaux sont peut-être un peu trop réchauffées chez nous. Du coup, le cabillaud, je pense qu'il ne vient plus. On n'en voit plus un dans l'année. Si c'est un, c'est exceptionnel. Je parle d'une pièce. Avant, on en faisait des tonnes dans l'année. Donc, maintenant, c'est au tueur de la solde. Donc nous, notre métier, franchement, on n'est pas garni parce que toutes les espèces qu'on pêche, ils disparaissent.
Donc est-ce que ce changement d'espèce qui arrive en fait dans la Manche, ça influence votre manière de faire votre métier?
Avec nos navires qu'on a, on peut pas pêcher les nouveaux. Comme là, il y a les encornés, il y a pas mal d'encornés qui sont là comme en face de notre port, mais que nous, avec notre système de bateau, on peut pas pêcher. Du coup, on regarde les autres pêcher, transformer notre bateau, c'est impossible, ça nous reviendrait beaucoup trop cher. Vu maintenant les finances qu'on a, vu ce qu'on rapporte, on gagne plus assez d'argent pour faire des crédits énormes, pour changer notre système de pêche. Par contre, les pêcheurs qui ont des gros bateaux, eux pêchent encore un tout ça tranquillement en face de chez nous, les étrangers. Donc nous, on les regarde pêcher. On ne peut pas rivaliser. Déjà, ils pêchent tout et en plus, ils détruisent le fond marin parce qu'ils ont des systèmes de pêche qui détruisent le fond marin.
Ouais.
Mais ça, personne n'arrive. On avait l'association Bloom qui était avec nous pour la pêche électrique, qu'on a réussi à arrêter la pêche électrique. Là, on a fait pareil pour la pêche à la Seine des Mersales et justement, on n'a pas arrivé à les arrêter puisque, comment, pour les autres, pour les états, apparemment, ça ne détruit pas ou je sais pas quoi. Du coup, on a perdu ce combat-là. Mais en plus, ils pêchent près des côtes avec des engins énormes, avec des filets qui font 1000 mètres carrés. Comme ça, on pêche tout le temps, toute la journée, la nuit, tout. Ça détruit le fond de la mer, ça ramasse tous les petits poissons, tout. Et on continue à pêcher comme ça.
La méthode dont parle Merlin Laurent, notre pêcheur, c'est la Seine des Mersales. Aussi appelée Seine danoise, c'est une pêche intensive pratiquée par les bateaux néerlandais et autorisée par l'Union européenne. Capable de couvrir en une seule fois 3 km² de fond marin, elle est d'une efficacité terrifiante. 5 seineurs rastissent en une seule journée une surface équivalente à celle de Paris.
Depuis 10 ans pointée du doigt par les pêcheurs et les organisations de protection de la biodiversité, comme une technique qui mettrait en péril leur activité et la survie des espèces marines, son usage a tout de même été légitimé en 2021 par le Gentleman Agreement. C'est un accord obscur qui regroupait les institutions de pêche françaises et les pêcheurs néerlandais. Une légitimation qui s'est encore renforcée le 30 septembre dernier, puisque Bruxelles a réitéré le caractère légal de ce type de pêche. Aujourd'hui, 75 seineurs sont autorisés à pêcher dans la Manche.
Les artisans pêcheurs se sentent de plus en plus démunis face à ces techniques qu'ils accusent d'être déloyales en plus de massacrer leurs fonds de commerce.
Mais alors comment se défendre les pêcheurs? Amènent-ils l'affaire à un niveau politique? Existe-t-il des syndicats?
Avec un syndicat, nous, à la petite pêche à Boulogne, comme je vous dis, on est en perdition complète. Avant, on était 60 il y a 10 ans, maintenant, on doit être plus que 10-12 pêcheurs. Donc, quand on fait grève ou tout ça, ou si vous voulez, vous faites grève à 10, ça n'impacte rien. On est abattus, je voulais des collègues avec le Brexit, ils ont le bateau dans le bassin, ils ont vendu leur maison, ils ont été. C'est carrément. J'ai des collègues, ils sont dépités, ils ont perdu leur vie à cause de ça et aucune aide. Là, ils veulent casser leur bateau, ils peuvent même pas, ils rentrent même pas dans les lois. Nous, on est dépités, nous, à la petite pêche. On a eu le Covid comme tout le monde, après, on a eu le Brexit. Nos eaux, ils sont envahis par les étrangers. Il y a toujours quelque chose sur nous, quoi. Je veux dire. Là.
Et est-ce que c'est un métier que vous recommanderiez à votre fils?
Non, il est interdit de le faire. Ah. Il veut le faire, mais moi, je veux pas. Voilà.
Pour aborder cet aspect institutionnel et politique, on a contacté Thibaut Josse de l'Asso Pleine Mer. Lui, il travaille avec les pêcheurs et les consommateurs pour une pêche durable et une économie en circuit court. En parallèle, ils enquêtent et dénoncent les pratiques, ainsi que les conséquences, de la pêche industrielle afin d'attirer l'attention des politiques. Il nous explique que les pêcheurs ont déjà essayé d'obtenir un changement en allant jusqu'à attaquer ce système de quotas en justice.
Donc le problème pour nous, il est surtout dans la répartition des quotas, et les pêcheurs ont attaqué ce système-là en justice, et ils ont gagné hein, au tribunal administratif. Le truc, c'est que l'État, évidemment, a fait appel de la décision, donc tout est à refaire, mais très globalement, voilà, il y a quand même un problème sur cette répartition des quotas de pêche.
C'était en quelle année qu'ils ont attaqué l'État en justice?
Ils ont gagné l'année dernière. D'accord. En 2021, ils ont gagné.
Ok.
Le système de quotas auquel s'opposent les pêcheurs artisans est le suivant. Décidé au niveau européen après une consultation scientifique qui définit la quantité acceptable de poissons à pêcher en fonction des espèces, ils sont ensuite répartis entre les différents États membres. C'est ensuite au tour des États membres de répartir leurs quotas entre différentes organisations de producteurs qui elles-mêmes les répartissent entre leurs différents adhérents. C'est à ce moment que ça se complique. À l'image de From Nord dont nous allons bientôt vous parler, ces organisations comptent des bateaux très divers. 146 navires de pêche artisanale, 9 navires de pêche hauturiers, c'est-à-dire des gros bateaux qui partent des semaines durant en haute mer. Dans ces 9 navires, 4 sont des navires congélateurs, et ce sont ces navires qui raflent le plus de quotas.
Et il y a une représentation au-delà de...
Ah oui, après le problème de la représentation, c'est qu'elle est vraiment noyautée par les industriels de la pêche. Hein. Vous avez les comités des pêches, mais en fait c'est la même chose. Les comités des pêches sont complètement noyautés par les industriels. Donc malheureusement, il n'y a pas une représentation suffisante du tout des pêcheurs artisans.
Nous avons donc mesuré dans cette première partie l'impact social provoqué par la diminution des stocks de poissons.
Dans une seconde partie, nous aborderons les rapports de force qui se jouent dans la répartition des quotas, mais également la nécessité de réajuster dynamiquement ces quotas en fonction des évolutions du climat.
Vous venez d'écouter On perd le Nord, le podcast qui traite des enjeux environnementaux dans le Nord et le Pas-de-Calais.